7h avec le journal de Catherine Dutuc que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des petits déjeuners offerts dans les écoles des quartiers prioritaires, un meilleur accompagnement des adultes en situation de grande précarité pour les accompagner notamment vers l'emploi, vers des formations. C'est le plan de lutte de l'exécutif contre la pauvreté qui est présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron. 8 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat pour aider les enfants notamment.
Et puis le Parlement européen dénonce la menace systémique qui pèse sur les valeurs de l'Union européenne avec la Hongrie et active une rare procédure qui pourrait à terme conduire à des sanctions vis-à-vis de Budapest.
À la une également, l'échec des négociations entre les pêcheurs français et anglais sur le conflit autour de la coquille Saint-Jacques. Et puis l'ouragan Florence qui a été rétrogradé en catégorie 2 sur 5 vers les États-Unis. La Martinique et la Guadeloupe sont elles passées en alerte rouge pour de fortes pluies à l'approche de la tempête tropicale Isaac.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, les transports en commun doivent-ils être gratuits pour tous? On posera la question à Bruno Gazot, qui est président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.
Lutter contre les inégalités de destin, c'est l'objectif du plan pauvreté présenté ce matin par Emmanuel Macron en personne depuis le Musée de l'Homme à Paris. Pas question de créer de nouvelles aides financières ni d'augmenter le RSA, le revenu de solidarité active, non. Le chef de l'État mise surtout sur la prévention et l'accompagnement des 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela fait un Français sur 13 qui se prive de nourriture, de soins médicaux, de chauffage ou de vacances, Maxime Tellier.
Et ça n'est pas une surprise, hein, lorsque l'on gagne moins de 1000 euros par mois pour une personne seule, c'est en dessous de ce seuil que l'on devient pauvre au sens de l'INSEE. Le quotidien est alors rythmé par les privations. Le Secours Populaire en a donné un aperçu dans son dernier baromètre publié lundi dernier. Près d'un tiers des Français interrogés expliquent qu'ils n'arrivent pas à consommer des fruits ou légumes frais chaque jour. 22% ne peuvent se payer du poisson une fois par semaine, autant que ceux obligés de sauter un repas dans la journée. Et 17% n'arrivent pas non plus à payer la cantine des enfants. La liste est longue, entre comptes bancaires à découvert, impossibilité de partir en vacances, même une semaine, de chauffer son logement pendant l'hiver ou de payer le loyer. Côté tendance, eh bien le taux de pauvreté ne recule plus en France depuis le tournant des années 2000. Pour l'Observatoire français des inégalités, on a assisté là à un retournement historique après une forte baisse continue des années 70 aux années 90. Aujourd'hui, les personnes pauvres vivent surtout en ville et en banlieue pour les deux tiers d'entre elles. Elles sont jeunes, près de la moitié ont moins de 30 ans, peu diplômés aussi, hein, les deux tiers ne sont pas allés au-delà du CAP. Les associations caritatives attendent beaucoup du plan pauvreté qui est présenté ce matin, mais surtout des actes et des résultats, car côté promesses et belles paroles, elles ont déjà donné.
Et parce que naître dans une famille pauvre signifie encore trop souvent rester pauvre toute sa vie, priorité donnée par l'exécutif aux 3 millions d'enfants et d'adolescents qui vivent dans une situation d'extrême précarité. Obligation de formation jusqu'à 18 ans pour lutter contre le décrochage scolaire. Arrêt des sorties de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans quand un jeune n'a ni formation ni emploi. Dans ce cas, la prise en charge pourrait durer jusqu'à l'âge de 21 ans. 1 milliard 200 millions d'euros. Au total, c'est l'enveloppe, le montant de l'enveloppe prévue à la fois pour aider les communes par ailleurs des quartiers prioritaires à accueillir davantage d'enfants, mais aussi pour mieux former les personnels de la petite enfance, alors que sur le terrain, les besoins sont énormes et les financements en baisse. Le reportage de Claire Chaudière dans un centre social du 19e arrondissement de Paris.
Ici, le pognon de dingue, eh bien ça marche, lâche avec le sourire l'un des responsables en guise de bienvenue. Dans ce centre social, une crèche à vocation d'insertion pour commencer, dont a bénéficié Nawel, une place qui, dit-elle, lui a changé la vie.
Parce que, en fait, je travaille avec mon femme de ménage et je ramène avec moi mon fils au travail. C'était très très dur. Il faut que je fasse attention à mon bébé. Et comme j'ai trouvé une place, j'ai bien avancé. J'ai gagné ma vie plus. J'ai fait beaucoup de démarches.
Il y a un petit espace de sieste.
Carole Locatelli dirige le programme.
On a 70% des familles qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Au-delà de l'accueil des enfants, on fait de l'accueil des familles au sens large. J'attends ce plan qui nous facilite la vie à tous.
Autour de la crèche, des offres de formation, des actions de santé, un contact permanent avec les travailleurs sociaux, cette fameuse approche globale si efficace saluée par le gouvernement. Et pourtant, la structure est fragilisée, s'inquiète son directeur Vincent Mermet.
C'est quand même fou. C'est la première fois depuis plusieurs années que notre budget est en baisse. On est proche de la disparition totale de l'État dans notre budget. Il y a une sorte de contradiction entre ce plan qui se veut ambitieux et puis la réalité de terrain telle qu'on la vit.
Malgré l'amertume qui gagne chaque année du terrain, si l'étau financier se dessert ne serait-ce qu'un peu à l'issue de ces annonces, conclut ce militant associatif, ce sera déjà ça de prix.
Être pauvre en France en 2018, de quoi parle-t-on? C'est une enquête à retrouver sur notre site franceculture.fr. Le plan pauvreté présenté donc ce matin par Emmanuel Macron, de quoi rassurer peut-être ceux qui doutent au sein de la majorité présidentielle. 58 députés En Marche n'ont pas voté hier pour Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale. Pas de quoi entraver malgré tout l'ascension au perchoir du député du Finistère, ex-socialiste et macroniste de la première heure. Et Richard Ferrand qui a été élu hier donc au perchoir à l'heure de la rentrée parlementaire, avec certains élus En Marche qui se sont déportés sur Marc Fesneau, chef de file du groupe Modem, membre de la majorité. À lui seul, Marc Fesneau recueille 86 voix, bien au-delà des 46 députés centristes, signe des remous qui traversent la Macronie, Alexandra Dubouchereau.
Il y a bien eu une ovation debout des députés de la majorité à l'annonce du vainqueur.
Monsieur Richard Ferrand, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
Mais aussitôt derrière, la petite phrase d'un élu de l'opposition rappelle une vérité. Une petite majorité, effectivement. Alors qui sont ces 58 marcheurs à avoir défié le choix d'Emmanuel Macron? Le vote est à bulletin secret. Richard Ferrand, ce n'était pas le candidat idéal. L'affaire des mutuelles de Bretagne, c'est 30 ans de vie politique derrière lui. Et puis c'est un homme, encore, pas de quoi jubiler donc lorsqu'il monte pour la première fois au perchoir.
J'ai parfaitement conscience que mon élection est plus le fruit de réalités politiques majoritaires que l'issue d'une compétition de talent.
Avec 86 voix, presque deux fois plus que le nombre de députés du groupe, le Modem acquiert un poids politique inespéré au sein de la majorité, ce qu'essaie un peu de minimiser Marc Fesneau.
C'est normal dans la démocratie que je puisse exprimer la diversité de nos opinions, même si nous sommes dans la même majorité, parce que je pense qu'une grande partie des voix viennent de ces rangs-là, probablement aussi des amis centristes du groupe UDI Agir, qui a manifesté la volonté que puisse s'exprimer aussi cette spécificité centriste.
De son côté, la porte-parole des députés La République En Marche, Olivia Grégoire, ne veut pas parler d'un vote sanction.
Je ne suis pas stressée, angoissée ou inquiète du score de Marc Fesneau. Je l'ai dit, je le redis, Marc Fesneau est une personnalité qui émerge parce qu'il rassemble et parce que c'est quelqu'un d'agréable et qui bosse.
Pas de division, mais un coup de semonce, donc pour commencer une nouvelle année chargée en réformes.
Et de son côté, la présidente du groupe socialiste Valérie Rabault a pour sa part ironisé sur le score d'humilité obtenu par Richard Ferrand, à qui donc il a manqué 58 bulletins pour faire le plein hier parmi les troupes de La République En Marche.
7h07 sur France Culture, la droite française, elle, comme d'autres en Europe, est divisée sur le cas du Premier ministre hongrois Viktor Orban.
Pour la première fois de son histoire hier, le Parlement européen a demandé au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanction contre la Hongrie en raison des menaces qu'elle fait peser sur les valeurs fondamentales de l'Union, violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, action contre les migrants, contre les ONG. Un vote majoritaire a donc eu lieu hier à Strasbourg, y compris au sein du Parti populaire européen, dont Viktor Orban est pourtant membre, même si les eurodéputés de ce groupe majoritaire donc étaient extrêmement divisés sur la question, et notamment au sein de la délégation française. Françoise Grosstete fait partie des 9 parlementaires français du PPE, 9 parlementaires sur 20 qui ont voté pour sanctionner Viktor Orban.
Cela fait des années qu'au sein du parti PPE et au sein de notre groupe parlementaire, nous disions à Viktor Orban qu'il fallait quand même qu'il nous montre des signes selon lesquels il se sentait quand même à l'aise avec les valeurs et les idées du Parti populaire. Malheureusement, il n'y a pas eu d'écho à cela. On avait l'impression de se faire un peu ridiculiser par Viktor Orban. On lui disait « ça va pas, vous pouvez pas vous permettre de faire ceci ou cela ». Lui n'avait aucune envie de suivre nos recommandations. Donc il y a un moment où il faut montrer aussi qu'on n'est pas décidé à se laisser manipuler, d'autant plus qu'il y a cette élection européenne qui approche. Les électeurs n'aiment pas les hésitations. Alors, l'exclusion, ben, nous verrons. Moi, je ne suis pas toute seule à décider au sein de l'Assemblée politique dont je fais partie, mais ce ne serait pas, disons, étonnant qu'il y ait une demande d'exclusion ou que tout simplement Viktor Orban peut-être se décide à s'en aller, je n'en sais rien. Nous verrons.
L'eurodéputée Françoise Grosstete au micro d'Anya Vogel au Parlement européen à Strasbourg. La Hongrie de Viktor Orban qui choisit ses migrants, pas d'étrangers venus d'Afrique, du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, non, mais des migrants de luxe à qui Budapest a accordé 20 000 visas dorés, des Chinois ou bien des Russes qui sont d'ailleurs proches du pouvoir stalinien, visas accordés contre 300 000 euros à investir dans des emprunts d'État hongrois, des obligations à 5 ans qui restent bloquées pendant pendant cette période des visas accordés pour ensuite travailler et voyager en Europe, selon un collectif de journalistes d'investigation qui réunissait deux sites web hongrois. Le Parlement européen qui a voté hier en faveur de la très sensible réforme du droit d'auteur au grand dam des géants du net, qui sont censés désormais passer à la caisse pour les contenus artistiques et les articles qu'ils utilisent. Artistes et éditeurs de presse, partisans d'une modernisation des règles pour stopper le piège des plateformes en ligne, ont applaudi hier cette décision des eurodéputés, vivement critiquée en revanche donc par les entreprises du numérique et par les activistes de la liberté du web. L'échec des négociations à présent entre les pêcheurs français et anglais sur le conflit autour de la coquille Saint-Jacques, plus d'une semaine après des échauffourées spectaculaires en baie de Seine entre bateaux de pêche français et anglais. Hier, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre à leur choix.
En France, la pêche à la coquille Saint-Jacques dans la Manche n'est autorisée qu'entre le 1er octobre et le 15 mai. Tous les ans, les pêcheurs normands essayent donc de faire respecter ce même calendrier à leurs homologues anglais qui n'ont pas de règles en la matière et ils leur proposent des compensations. Mais cette fois-ci, blocage, les Anglais réclamant, selon leurs homologues, l'équivalent de 2 millions d'euros de compensation en valeur de poissons. Une proposition plus raisonnable leur a été faite avec date limite de réponse attendue hier midi. Aucune réponse anglaise n'étant parvenue, tout accord est donc caduc, ont estimé les pêcheurs français. Mais au-delà de ce différend, c'est toute une gestion durable des ressources naturelles qui se joue, selon Dimitri Rogoff, président du comité normand des pêches et élevages marins.
On se retrouve un petit peu comme les pays émergents qui se font piller leurs ressources naturelles. Et l'Europe ne nous protège pas parce que la coquille n'est pas gérée par l'Europe. On pourrait considérer que l'Europe voit que la coquille comme une espèce mineure, alors que c'est une espèce en valeur, une des toutes premières espèces au niveau européen. On pense toujours que la mer est grande, qu'elle est immense. Bah, elle est ni grande ni immense, surtout la Manche, le Channel, en fait c'est un bras de mer, c'est une grosse rivière, quoi. Très clairement, les bateaux industriels n'ont rien à faire dans ces endroits-là, quoi. Là, le petit pêcheur français, il aura bien du mal, et en interne à convaincre, et au niveau européen, mais c'est un vrai combat qu'il faut mener, oui, pour la protection des ressources et une meilleure gestion, une valorisation de toutes ces ressources marines.
Le ministre français de l'Agriculture a acté cet échec. Reste à espérer que la saison de pêche à la coquille qui s'ouvre se fera sans les tensions qu'on a connues ces derniers jours.
Les présidents des conférences épiscopales du monde entier convoqués en février prochain au Vatican pour aborder le thème de la protection des mineurs. C'est ce qu'a annoncé hier le Saint-Siège, alors que l'Église catholique allemande a, elle, réalisé un premier acte de contrition hier après la publication par la presse d'un rapport relayant plus de 3600 cas d'abus sexuels sur mineurs passés sous silence durant des décennies. Aux États-Unis, l'ouragan Florence qui se dirige vers la côte est, vers les États de Virginie et de Caroline du Nord et du Sud, l'ouragan Florence a été rétrogradé hier d'un cran en catégorie 2 sur 5. La Martinique comme la Guadeloupe sont, elles, passées en alerte rouge pour forte pluie à l'approche de la tempête tropicale Isaac. C'est ce qu'ont annoncé les deux préfectures hier. Le temps de ce jeudi 13 septembre dans l'Hexagone, plus calme, hésitant encore entre nuages éclaircis et pluies éparses dans le nord-est notamment et sur les reliefs. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 18 et 23 degrés du nord-ouest jusqu'à la Lorraine, 24 à 28 ensuite du sud-ouest jusqu'en Alsace. Plus chaud dans le quart sud-est avec de 27 à 33 degrés, Guillaume Erner.
Merci Catherine, il est 7h13 sur France Culture.